Alors, parce qu'en plus, c'est le cours le mieux de l'année, parce qu'on a parlé pendant toute l'année du fait qu'on n'était pas au niveau, pas pêcheur, etc. Et puis aujourd'hui, on dit, bah, finalement, grâce à Dieu, on est au niveau, et donc on va pouvoir être divinisé. Donc on est carrément au top, là, tout d'un coup, pour le huitième cours. Bon, donc on va voir un peu ça. Donc, ce que je voulais rappeler, c'était le fait qu'on était sur plusieurs modes. Donc on a l'état avant le péché, dont on connaît à peu près rien. L'état de l'homme pécheur, ça on voit bien, et c'est bien dans l'état dans lequel on est. Et puis il y a l'état glorieux, après notre mort, dont on ne connaît pas non plus beaucoup de choses. Voilà. Mais il y a ces états, en fait, ils sont qualifiés par notre relation à Dieu. Donc on a le côté innocence de Adam avant le péché, le côté de séparation, qui est ce qu'on expérimente, qui est que Dieu est loin et qu'on n'est pas, on a du mal à être en lien. Et puis l'accomplissement, puisqu'il y a quelque chose justement... on retrouve la ressemblance, on voit Dieu. Donc il y a quelque chose de l'accomplissement de notre vocation après la mort. Voilà. Et en fait, ces temps-là, ils sont non seulement différents dans ces trois grands temps de l'humanité, mais en plus, ils sont différents pour chacun d'entre nous. Puisque nous, à chaque moment, alors on est dans l'état numéro 2, séparation, mais quand même, on a chacun des modalités de le vivre différemment, ce qu'on appelle le tropos. Et par contre, il y a quand même un continuum, c'est-à-dire que même dans ces trois temps, en fait, on a la même nature humaine, et donc on n'est pas, c'est pas une nouvelle création à chaque fois, et on change, et on rebelote tout, et on repart sur une nouvelle base. Donc on a vraiment ce continuum de notre nature, qui est ce qu'on a étudié déjà dans plusieurs choses, qui s'appelle Logos, comme Jésus, c'est ce que Jésus a assumé. En fait, il a assumé notre Logos, et après, son tropos à lui était particulier, et particulièrement particulier, puisqu'il était non-pêcheur, avec une part divine, etc. Donc, évidemment, sa modalité était particulière, mais il assumait notre nature humaine comme tout le monde, quoi. Voilà. Et donc, quelque part, à travers Jésus, ça nous dit aussi quelque chose de ce vers quoi on doit aller dans l'état de gloire. Voilà. Alors, je vous ai remis cette phrase de Romains 5. Romains est un... Allez, j'ai dû le citer je ne sais pas combien de fois, parce que c'est le texte qui parle beaucoup de ça, cette vocation divine de l'homme, de la glorification, de la grâce, etc. Bon, déjà, saint Paul est beaucoup sur parle beaucoup de la grâce dans beaucoup de ses lettres. Mais là, on a cette phrase qui est très intéressante. Lui qui nous a donné, donc Jésus, qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. La grâce, c'est le premier état dans lequel, c'est ce qu'on va en premier, c'est ce que nous, on met dans ce... Comment est-ce qu'on vit déjà, quelque part, de cette vocation divine, dès aujourd'hui. Voilà. Et puis, il y a... et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et donc là, on est aussi tourné vers l'avenir, en fait, et vers le fait que nous aurons part à la gloire de Dieu, quelque part, nous serons glorifiés d'une certaine façon, en tout cas, participants de la gloire de Dieu. Voilà, et c'est là notre vocation qui se décline dans ces deux temps, la grâce et la gloire. Voilà, donc on va commencer par la grâce. Alors, là je m'excuse parce que je pense que dans la première partie, la grâce est venue par Jésus-Christ, ensuite la grâce et le Saint-Esprit. J'ai un peu d'érudite, mais bon, c'est pas très grave, comme ça, la répétition est mère de pédagogie, donc on va dire que c'est ça. Donc avec la venue du Christ, en fait, on a un nouveau régime des rapports entre Dieu et l'homme. Donc on était sur la... quelque part sur la séparation, ça c'est l'état de l'homme pécheur, mais finalement avec la venue du Christ, il y a une connexion qui se refait, et c'est ce temps de la grâce qui quelque part anticipe sur la gloire finale, et c'est toute l'originalité du Nouveau Testament, c'est de nous montrer qu'il peut se passer quelque chose dès maintenant, voilà, et que c'est pas juste avant, après ou je sais pas quand, c'est déjà maintenant. Donc la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc c'est bien Jésus-Christ dans tous les sens de Jésus-Christ, c'est-à-dire à la fois parce que lui a assumé notre nature et à la fois parce qu'il a aussi, il nous a permis d'accéder au salut, donc il nous a offert le salut. Voilà. Donc on a Jean qui parle de ça, donc voilà, et donc il parle de la grâce comme Jésus incarné, en fait, le Verbe incarné, mais globalement c'est Paul qui va parler beaucoup plus dans le domaine de la grâce. Je vous prends un exemple encore de Romains. Vous n'êtes plus sujet de la loi, mais vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Et lui, quand il fait Paul l'opposition entre la loi, c'est effectivement la loi qui est extérieure, alors que la sujet de la grâce de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient de l'intérieur. Voilà. Autre mention dans Éphésiens, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, il développe deux aspects. D'une part, la gratuité, c'est un don de Dieu. Et en fait, il dit quelque part ailleurs que voilà, et c'est d'autant plus important, c'est que Dieu nous a sauvés alors que nous étions pécheurs. Et donc, il n'a pas attendu que nous soyons justes. Donc, il y a cette gratuité complète de Dieu que nous ne méritons pas. Et clairement, c'est la passion de Jésus qui nous sauve. Ce n'est ni notre bonnes actions, ni nos petits poignets à la force du bras. Voilà, donc c'est vraiment la foi et donc ce qu'on reçoit de Dieu. Donc c'est un don plénier et complètement gratuit. Et puis en même temps, c'est l'action de Dieu. Donc c'est à la fois ce don gratuit du salut et en même temps, c'est l'action de Dieu qui nous transforme et qui nous permet de nous vivre de cette relation de grâce. Un peu comme ce qu'on disait sur l'image et la ressemblance. Quelque chose de salut nous est donné. Puis après, il y a la ressemblance, et c'est comment est-ce qu'on en vit quelque part et comment est-ce qu'on en... Elle imprègne notre vie et qu'elle est du coup acte quelque part. Elle se transforme dans notre comportement et nos actes. Voilà. Et à chaque fois, on verra, et c'est pour ça que c'est un peu ambigu entre les deux parties, c'est aussi bien le Christ que l'Esprit, chacun avec ses tonalités. Mais quelque part, la grâce est venue par Jésus-Christ, mais finalement, la grâce qui opère dans notre vie à aujourd'hui, c'est l'Esprit, en fait. C'est lui qui par les sacrements, par le baptême, vient nous donner. Même si dans l'Eucharistie, on voit bien, dans l'Eucharistie, on a les deux quelque part. On reçoit Jésus, mais on reçoit aussi l'Esprit-Saint par l'Eucharistie. Alors après, dans les pères de l'Église, saint Augustin est évidemment celui qui a beaucoup parlé de la grâce. On l'appelle le docteur de la grâce. Donc ce qui est important de voir pour saint Augustin, c'est que vraiment, la grâce n'est pas un adjuvant extérieur. Donc on n'a pas quelque chose qui est... comme un outil, une possibilité, une potentialité qui est mise à côté et dont on peut user. C'est vraiment un don qui prend en compte notre expérience humaine libre et qui s'appuie sur notre liberté pour pouvoir être, pour pouvoir agir, pour pouvoir rayonner. Voilà. Donc la grâce, elle n'agit pas à notre place. Elle nous fait vouloir ce que Dieu veut. Elle fait que nous fassions. Ça, c'est son expression à lui. Elle ne se substitue pas à notre volonté, mais elle l'oriente vers le bien. Donc il y a la grâce, c'est à la fois, elle est totale, c'est un don plénier et sans repentance, comme tous les dons de Dieu. Et en même temps, elle est respectueuse de notre liberté. Et donc si on l'actionne pas ou si on l'accueille pas, eh ben, il va rien se passer du tout. Voilà, moi, je caricature, mais pas grand-chose en tout cas. Alors saint Thomas d'Aquin, lui aussi, il a beaucoup travaillé sur la grâce, de façon peut-être un peu plus intellectuelle. Il a articulé les vertus en disant qu'elles ont une valeur aux yeux de Dieu. Donc quand je vous ai dit que la passion du Christ, c'est elle qui nous sauve et que nos bonnes actions, c'est pas ça qui nous sauvera, n'empêche que c'est pas pour ça qu'il est interdit, il est même plutôt recommandé de faire des bonnes actions. Voilà, parce que les vertus, elles ont une valeur aux yeux de Dieu et elles sont en fait aussi notre réponse quelque part à ce don gratuit de la grâce. Et elles sont imprégnées. Et pourquoi elles ont de la valeur? C'est parce qu'en fait, elles sont imprégnées, informées. Alors ça, c'est tous les mots philosophiques d'Aristote sur la forme et les accidents. On verra plus tard les accidents. Par la charité, elle-même donnée par l'Esprit-Saint. Donc en fait, les vertus, pourquoi est-ce qu'elles ont un aspect méritoire? C'est parce que finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le don de la grâce qui est un don de Dieu vers nous. Et en même temps... qui est l'action de Dieu pour nous transformer de l'intérieur. Et finalement, la vertu, c'est cette action, c'est le fruit de cette transformation, en fait, quelque part, qui nous fait opérer la vertu. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Aussi va-t-il faire de la grâce le bien suprême qui nous est donné, l'aide actuelle que le Christ nous fournit, le bienfait qui nous attend à la résurrection. Et donc, c'est les trois. C'est à la fois le bien suprême, à la fois une aide. Concrètement, c'est ce qui nous permet de libérer notre liberté. Donc, quelque part, c'est quand même une aide. Voilà. Et puis, le bienfait qui nous attend. Donc, il y a quelque chose déjà du bienfait dont on peut vivre. Et donc, quelque part, du bonheur, de la béatitude. Alors, un autre texte de Blondel. Je vous ai mis pas mal de références. Et on ne sait pas non plus trier. Mais bon, voilà. Comme ça, vous avez plein de textes à lire. C'est intéressant. De différents auteurs. Plus ou moins facile à lire, d'ailleurs. Donc, Blondel, il nous dit « La grâce est une adoption. » Alors, il utilise une palanquée de mots. « Une adoption, une assimilation, une incorporation, un consortium, une transformation. » Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a à la fois quelque chose qui vient de Dieu et qui nous... Voilà. Et puis, il y a à la fois quelque chose qui l'accueille et qui le fait que ça se synergise. Voilà, pour employer un autre mot, qu'il n'utilise pas. Voilà. Donc, ça assure une transformation qui est à la fois union et distinction. Des deux incommensurables, donc les deux incommensurables, c'est la nature humaine et la nature divine, par le lien de la charité. Donc on a cette sorte de double facette qui fait que ça prend, comme une mayonnaise qui prend. Voilà, entre l'œuf et l'huile. Donc le surnaturel n'est pas une sorte d'être distinct ou de réceptacle destiné à nous aspirer en nous faisant sortir de notre nature humaine. Il est au contraire fait pour être en nous, sans être jamais pour cela issu de nous, venu de nous. Donc c'est vraiment cette alliance de ce don extérieur de Dieu et en même temps qui est fait pour être en nous, c'est-à-dire qui est fait pour vraiment vivre en nous. Désolé, j'ai commencé parce qu'en plus le cours est super long, donc un peu long. Voilà. Alors, un autre texte de Urs von Balthasar qui commente Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin parle d'une co-naturalité, donc encore un autre mot, mais on est toujours dans le co, le avec, le voilà, établi entre Dieu et l'homme. Donc en fait, on est, c'est un objectif qui dévoile la réalité en elle-même, c'est la grâce. Donc là, je vous mets les deux mots au passage de grâce sanctifiante et grâce actuelle, qui ont beaucoup été utilisés dans tout le Moyen-Âge. Mais là, c'est Urs von Balthasar qui les synthétise quelque part. Donc, la grâce, c'est la participation à la réalité intime de Dieu. Donc, on est à la fois sur le don et en même temps sur le fait qu'on est capable de Dieu, finalement. Et grâce sanctifiante, ça, c'est ce qu'on est par définition. Et elle nous donne objectivement part à l'être de Dieu en tant que grâce actuelle. Donc, il y a quelque chose qui se vit réellement. Voilà. Donc, elle nous fait vivre en acte cette réalité et agir avec elle. Donc, ça devient quelque chose d'actif et pas juste un don, voilà, qui est posé là, quoi. Et l'autre parallèle, donc ça c'est la partie grâce, et l'autre c'est la conscience que nous en avons, c'est une vertu divine, et donc là il fait le lien, comme tout saint Thomas d'Aquin, entre la grâce, qui est ce don et cet acte de Dieu qui nous transforme de l'intérieur, et les vertus divines, donc la foi, espérance, charité, qui sont aussi quelque part un don, et qui sont aussi quelque chose qui nous fait bouger. Donc il fait le lien entre les deux. Voilà. Alors, on peut faire le parallèle avec les deux natures du Christ. Les deux natures du Christ, elles sont... Donc on a une nature humaine, une nature divine, et il n'y a ni mélange, ni fusion de l'humanité et de la divinité. Il n'y a pas non plus l'une qui absorbe complètement l'autre. Donc, on reste avec deux natures, et les deux natures coexistent, sans que le Christ soit particulièrement schizophrène. Voilà. Parce qu'on ne peut pas... donc inadmissible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en question le fait qu'il y a une différence ontologique entre le créateur et les créatures. Et donc, on n'est pas de même nature. Et donc, il n'y a pas la vocation divine de l'homme, ce ne sera jamais d'être de nature divine. Voilà, on n'est pas de cet ordre-là. C'est une participation à la vie divine. Mais ce n'est pas être... La nature humaine n'est pas transformée en une nature divine. Donc, on a bien ces deux natures qui restent. Et ce que fait le Christ... c'est qu'il vient réaliser en la nature humaine l'accord du vouloir humain et du vouloir divin. Donc les deux demeurent, mais ils sont, pas fusionnés, mais mis en lien, et donc ils veulent la même chose. Voilà. Et donc quelque part, par l'incarnation, il introduit dans l'humanité, un habitus d'obéissance au Père que l'Esprit-Saint nous communique. Et donc c'est finalement ce régime de la vie en Dieu qui s'est opéré dans la nature humaine du Christ, et qui va être ce que nous, on va pouvoir, en comparaison, de façon différente, mais vivre, nous, dans notre, à la fois par le temps de la grâce, aujourd'hui, et puis dans la vie après la mort. Voilà. Donc, il n'y a pas de transformation de la nature divine. On est clair, chacun reste là où il est. Mais il communique la volonté humaine, la capacité de vouloir ce que Dieu veut, et donc, finalement, de participer à la volonté de Dieu. Alors l'autre pendant, c'est quand on regarde le Saint-Esprit, donc lui, il manifeste encore plus le côté qui vient nous transformer de l'intérieur, puisque le Saint-Esprit, on est le temple de l'Esprit-Saint, donc votre corps est un sanctuaire de l'Esprit-Saint. Puis là, c'est intéressant parce qu'il introduit aussi la notion dans le corps, voilà, c'est aussi tout notre être, notre volonté dont on vient de parler, mais c'est aussi notre corps qui est imprégné du Saint-Esprit, et on le voit bien dans les sacrements, le baptême, c'est... voilà, l'huile, elle pénètre dans notre corps. Voilà, c'est tout notre être qui est imprégné. Et donc, on est temple ou sanctuaire de l'Esprit-Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Voilà. Donc, on a aussi toute cette thématique avec le Saint-Esprit de la demeure de Dieu en nous. Voilà, et c'est aussi tout ce que nous dit Christ dans Saint Jean avec « Nous viendrons demeurer en lui et... » Et le Père et moi, nous viendrons demeurer en lui, celui qui garde mes commandements. Mais c'est aussi ce qui se passe dans l'Eucharistie, où finalement l'Esprit-Saint vient demeurer en nous, fruit de l'Eucharistie. Voilà. Donc cette idée de demeurer, c'est à la fois de rester, mais c'est aussi on est dans la même maison quelque part, et donc on vit de la même façon quelque part. Enfin voilà, il y a cette idée de maison commune. Alors ensuite, beaucoup de Saint-Irénée sur le sujet, auteur qui a énormément écrit sur dans son Contre les hérésies, qui a beaucoup écrit sur cette cette notion de sanctification et de divinisation de l'homme. Donc, je vous lis le texte. Nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est esprit. Donc, c'est bien l'esprit en nous qui nous vivifie de l'intérieur et qui nous et qui agit en fait. Donc, la grâce dont on a parlé, elle est action du Seigneur par l'esprit. La présence de l'Esprit Saint opère en nous une transformation, même physique, dès le baptême. La faiblesse de la chair sera absorbée par la force de l'esprit et un tel homme ne sera plus charnel mais spirituel à cause de la communion de l'esprit. Quand on dit charnel, ça veut dire qu'il n'est pas simplement du matériel, on va dire. Et quand on dit spirituel, on ne dit pas juste qu'on devient des anges, hein, c'est pas ça le sujet, mais que c'est comment dire, que c'est l'esprit qui nous guide, en fait. Voilà. Donc la chair n'est pas une fin en elle-même. Ainsi, les martyrs rendent-ils témoignage et méprisent-ils la mort, non selon la faiblesse de la chair, mais selon la promptitude de l'esprit. Car la faiblesse de la chair, ainsi absorbée, fait éclater la puissance de l'esprit. L'esprit, de son côté, en absorbant la faiblesse, reçoit en lui-même la chair en héritage, et c'est de ces deux choses qu'est fait l'homme vivant, vivant grâce à la participation de l'esprit, homme par la substance de la chair. Donc, par exemple, des martyrs qui montrent qu'ils ont méprisé leur corps et qu'ils ont bien voulu donner leur vie, y compris leur corps, d'être imprégné de tout leur être quelque part, et ben c'est que cette voilà, la faiblesse, si on prend que notre corps, ben on va pas aller bien loin, on est faible, mais en fait innervé, envahi par l'esprit, et ben elle est capable de beaucoup plus de choses, et le martyr, qui finalement c'est quasiment une capacité divine qu'il a de pouvoir donner sa vie dans ces cas-là, quoi. Là, et donc on est vivant grâce à la participation de l'esprit et homme. Et on reste complètement homme. Voilà, on reste complètement homme dans la chair. Il ne s'agit pas d'annihiler l'homme. Alors Louis Bouillet, dans Le Père Invisible, il a aussi dit autre chose. C'est toujours un peu la même idée. Il n'est nullement question de concevoir une sorte d'entité séparée de sa source que l'homme s'approprierait. Alors en plus, le mot d'appropriation est important. Ce n'est pas nous qui nous approprions. C'est d'abord un don gratuit de Dieu. Donc on le reçoit. Voilà, on ne s'approprie rien du tout. Puis on sait que la foi et l'esprit, c'est pas, on peut le diffuser autant qu'on veut. De toute façon, ça fait partie de ces choses qu'il vaut mieux partager pour qu'elles grandissent, en fait. Voilà. On veut tout au contraire affirmer avec le mot accident. Donc là, on est sur les références de Aristote. Voilà, que l'influx de l'esprit ne demeure pas extérieur à l'homme. Donc quelque part, il vient, les accidents, c'est tout ce qui vient, comment dire? Oui, impacter notre être, voilà. Et donc, il ne demeure pas extérieur, il vient tamponner notre être. Et pourtant, il y a sans confusion des natures, il imprime réellement sa marque en notre être, il devient en nous principe de vie. Et là, quand on dit principe de vie, ce n'est pas juste la vie terrestre, mais c'est la vie, du coup, la vie éternelle, la vie en Dieu dont on parle. Cette notion de grâce créée exprime donc le fait incontestable que c'est bien nous, notre être de créature, que la présence active en nous de l'esprit divinise, sans pour cela nous absorber et nous anéantir en Dieu. Donc là, c'est aussi la même idée que l'Esprit Saint, même s'il habite en nous, il ne nous envahit pas de telle sorte que nous ne soyons plus. Voilà. Il n'est pas, il n'a pas cette voilà, il nous respecte quelque part. Et donc, il y a une alchimie qui se fait entre les deux. Alors ensuite, je voulais aborder le thème de déjà là et pas encore, parce qu'on peut se dire, bah, avec les sacrements, avec le salut du Christ, bah, on est déjà sauvé, on est déjà capable d'être... On est appelé fils et filles de Dieu et on est capable de vivre de cette vie divine. Sauf qu'on voit bien que c'est pas, ça paraît pas complètement abouti. Enfin, en tout cas, on espère que c'est pas complètement abouti parce qu'il reste encore pas mal de galères. Donc voilà. Donc il y a, et l'Église a tenu ça et ça fait partie d'un certain nombre d'hérésies aussi et de problématiques qu'il y a eu dans le temps de l'Église. C'est qu'elle a défendu deux choses. Elle a su de se défendre des courants apocalyptiques qui dépréciaient complètement le présent. Et méconnaissait le patient travail de la grâce en disant bah, finalement, quasiment suffisons-nous et puis attendons juste le ciel parce que là on peut rien faire de bien sur terre. Je pense notamment par exemple à des hérésies comme les cathares, c'est un peu cette idée là, c'est que de toute façon on fera rien de bien sur terre, donc il faut directement passer au ciel, donc on fait pas d'enfants, voilà, là où ça se passe. Et puis contre le judaïsme, elle a dû défendre sa conviction du déjà là des derniers temps Donc on ne peut pas juste attendre les promesses messianiques. Il y a quelque chose qui est déjà là, parce que Jésus, il est là. Il est passé et il reviendra, mais il est déjà là et le salut est déjà acquis. Voilà. Et donc, et en parallèle, elle a quand même affirmé que tout n'était pas là, et donc il y avait un avenir eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps. Et donc, dans le Credo de Nicée, il viendra, dans Constantinople 1, elle dira, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et dans le Credo baptismal, je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Donc, il y a cette double vue, et l'Église est restée toujours sur cette droite ligne, de dire, d'un côté, c'est déjà là, on est sauvé. Et on peut déjà, quelque part, participer de cette vie divine et être dans une certaine forme de béatitude. Et en même temps, on n'y est pas du tout. Et ce ne sera que quand le Christ reviendra. Même pas notre mort, mais quand le Christ reviendra. Paul, quand il explique le mécanisme de la rédemption, il dit « Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé », toujours Romains 5. Il insiste pour dire que si l'action est actuelle, cette transformation est loin d'être achevée. Vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée en Dieu. Donc, quelque part, c'est comme si on était déjà mort, c'est ce que fait le baptême, c'est qu'il nous fait, on passe dans les eaux et c'est la mort. Et en même temps, on voit qu'on ressuscite baptisé quelque part, donc on a déjà une forme de vie baptisée qui est une vie éternelle, mais on voit bien qu'on va de nouveau avoir une vraie mort et puis une vie éternelle. Donc c'est pas achevé, voilà. Et notre vie est cachée en Dieu, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas abouti. Et puis, il y a un peu dans la lettre aux Romains toujours, un peu plus loin, 8. Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Nous qui ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, il y a tout ce thème de l'attente et de l'espérance. Alors, le père de Lubac, j'ai beaucoup lu un petit catéchèse sur nature et grâce que je vous conseille, qui est pour une fois un petit bouquin et relativement lisible du père de Lubac, avec pas toutes les trois lignes des choses en latin qu'on ne comprend pas, et qui ne sont pas traduites, ce qui est en général le cas de figure. Donc là, c'est plutôt traduit, et puis il y a peu de latin. Voilà, donc ça, c'est bien. Ça, c'est pour moi, parce que j'ai du mal à lire les trucs qui sont en latin. Donc la grâce transforme la nature. Pourtant, la nature humaine reste nature humaine. Le christianisme est une doctrine de transformation, parce que l'esprit du Christ vient investir la création première pour en faire une nouvelle créature. Et quand il dit une nouvelle créature, c'est pas on érase complètement la précédente et puis on démarre sur une nouvelle complètement. C'est pas une nouvelle création comme en Genèse. C'est une création nouvelle au sens de transformation. Mais du coup, qui change d'état, quoi. Un peu comme la chenille qui devient papillon. C'est la même nature, on est d'accord. Mais enfin, bon, visuellement, ça fait quand même pas du tout la même chose. Voilà. Ce qui est vrai, la grande transformation finale au jour de la parousie est vrai. Alors, parousie, c'est le retour du Christ, est vrai déjà de chacun d'entre nous. Il nous faut déjà être au fond de nous-mêmes, transformés en son image. Voilà, c'est réaliser la ressemblance. Aussi, Paul nous exhorte-t-il à nous laisser transformer par le renouvellement de notre esprit. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est en chemin. Donc, à la fois, on doit vivre notre imperfection comme une tension vers cette réalisation. Qu'est-ce qui te fait rire ? Ah oui, une vieille non-patria. Ouais. Ça, je comprends encore. Qui ne sera totale qu'à la résurrection. Nous sommes déjà transformés, mais il y a une grande place pour espérer la transformation finale où notre volonté sera totalement imprégnée de celle du Père. Donc c'est quelque part, on voit Jésus à Gethsémani. Voilà, il y a cette volonté humaine qui s'insère complètement dans la volonté divine. Et c'est ce qu'on est appelé à vivre et c'est ce qui n'est pas très facile à faire aujourd'hui. Voilà. Et donc cet inachèvement, on le voit bien dans la confession, où à la fois on est complètement sauvé et complètement propre après le sacrement, comme complètement renouvelé et complètement divinisé quelque part. Et en même temps, on sait bien l'illusion du progrès moral que ça pourrait faire. Et l'Église est assez lucide pour nous dire que c'est pas mal de se confesser régulièrement. Alors, le deuxième point, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe après ? Parce que là, on a parlé de la grâce, c'est un peu maintenant, mais on voit bien que tout se passe pas maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le jugement dernier ? Donc, déjà, les derniers temps, qu'est-ce qui se passe ? Donc, Jésus, il a annoncé la consommation de l'âge présent. Alors, on traduit à tort par la fin du monde, parce que la fin du monde, ça voudrait dire qu'on finit le monde et puis qu'après, il se passe autre chose, je sais pas. Là, c'est plutôt une consommation au sens, il y a quelque chose qui se transforme. Donc, c'est plus proche de ce que ce sera. Donc Jésus, il en parle comme de sa venue, c'est le mot parousie, en Matthieu 24. Saint Jean, il nous parle plutôt de l'heure, mais c'est la même thématique, le jour du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on a beaucoup aussi le jour du Seigneur. Les descriptions de Saint Paul sont très sobres. Donc on a la trompette, bon, la venue du Seigneur, la résurrection des morts, puis l'enlèvement des vivants, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà, donc c'est relativement synthétique. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté, alors là il explicite un petit peu plus, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais comme il dira, tout est soumis, c'est évidemment à l'exclusion de celui qui a soumis tout, qui lui a tout soumis, le Père. Et quand toutes choses lui auront été soumises au Christ, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, c'est-à-dire à son Père. Voilà, pour que Dieu soit tout en tous. Donc il y a quand même cette idée de puissance, domination, il y a des gens qui sont détruits, voilà, il y a des choses qui sont détruites, notamment la mort aussi. Donc il y a des choses qui sont détruites et puis il y a des choses qui sont transformées. Enfin, c'est pas hyper explicite sur ce qui va se passer, quoi. L'idée de royaume, quand même, ce qui est intéressant, le Christ va régner. Donc régner, ça veut dire qu'il va pouvoir régner complètement. Il n'y aura plus d'obstacle à son règne, en fait. Contrairement, donc, l'idée du règne du Christ, c'est aussi que quand on dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, quand la volonté plénière de Dieu est réalisée, quelque part, c'est que le règne de Dieu est réalisé. Donc on est sur la même idée qu'il y a quelque chose de plénier là-dessus. Alors les prophètes avaient déjà repris, développé ce que Jésus nous dit en pronostiquant un terme à l'histoire. Alors personne ne parle d'un événement juste où il y aurait des événements malheureux et puis un événement heureux, on va dire, la fin. Non, en fait, il y a une sorte de passage. Voilà, c'est souvent, et puis tous les thèmes sur la porte que Jésus a utilisé sont de cette tonalité-là. Voilà, il y a une idée de passage. Qui finalement passe de l'histoire humaine et cosmique qu'on connaît à quelque chose de différent. Voilà, un nouveau statut par rapport à Dieu, par rapport au monde, par rapport à son corps, à la société de ses semblables. Donc c'est un seuil. Pourquoi ce seuil est nécessaire? Parce que s'il n'y avait pas un changement global qui affecte tout le monde, le cosmos, la société, le total, le salut resterait une affaire individuelle, en fait, qui ne concernerait que notre âme. Notre corps, c'est ce qui nous met en relation avec tout le reste. C'est aussi ce qui est la part visible et matérielle de ce qui nous entoure. Et donc, si c'est juste un salut individuel, ben, en fait, on est une somme d'électrons. Voilà. Et ben, tant mieux pour nous, mais c'est plutôt le statut des anges, en fait. Et ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas en tout cas ce que Dieu nous a dit dans la création, en nous créant ces connexions, ce fait qu'on doit prendre soin de la création, etc. Donc l'histoire doit s'arrêter pour que toutes les générations soient rassemblées autour du Christ et que le nombre des élus étant atteint, alors c'est derrière ça, on met ce qu'on veut, y a pas, c'est pas précis, c'est pas de dogme, hein. Mais il y a l'idée qu'on a une sorte de, voilà, la patience de Dieu attendue, qu'il y ait un certain nombre de, voilà, que l'humanité ait une sorte de visage complet, voilà, je sais pas si c'est une histoire de nombre, si c'est une histoire de nombre de personnes, de typologie de personnes, je sais pas. Mais il y a quelque chose d'un ensemble de choses qui fait qu'à ce moment-là, l'humanité est ce que Dieu avait voulu. Et du coup, qu'on peut quelque part redémarrer ensemble le nouvel âge. Voilà. Et donc, on est obligé, j'aime bien l'idée de se mettre à table lorsque le dernier invité est là. Voilà. Sinon, ça va être désynchronisé, ça va pas le faire. Ça reste individuel. Donc, on va attendre le dernier invité qui est cette plénitude de l'humanité. Et puis à ce moment-là, on pourra démarrer la nouvelle façon d'être. Donc on a à la fois la rupture et la continuité. Et c'est vraiment une initiative divine. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on aura atteint tel truc. Voilà, je sais pas, on n'a pas suivi les mensurations, je ne sais pas quoi, le nombre de milliards de gens, ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment une pure initiative de Dieu et c'est son choix. Et comme on n'a aucune idée de son projet du visage de l'humanité qu'il veut, de toute façon, ça reste son moment, son initiative. Voilà. Mais il y a quelque chose de son projet sur l'homme. Quand il a dit à la Genèse, croissez et multipliez-vous, il avait dans l'idée de quelque chose, voilà, qui devait remplir quelque chose. Voilà. Donc il y a cette idée-là. Alors, le jugement dernier, donc on parle du jugement dernier, donc c'est important de parler du jugement. Voilà, parce que ainsi donc, de même que le péché a rétabli son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc il y a l'idée du jugement. On ne peut pas penser qu'il y a ce terme sans juste une transformation nulle part, on ne sait pas trop comment, et puis voilà. Il y a cette idée de jugement au sens biblique, donc c'est un passage au crible, une épreuve de vérité, en fait. Et c'est toute la parabole de Matthieu 13, 40 sur l'ivraie et le bon grain. Voilà, on les laisse croître et puis à la fin, au moment de la moisson, quand les temps sont accomplis de la moisson, eh ben, on va brûler l'ivraie et mettre à part le bon grain. Voilà, il y a cette idée de jugement. Donc on sépare, on fait le ménage. Il y a aussi la parabole avec les boucs et les chèvres et les moutons. Voilà. Donc voilà, il y a cette idée de tri qui n'est pas tant un jugement de Dieu ou un jugement qui s'impose comme ça, voilà, avec un « t'as de la chance, t'as pas de chance », mais quelque chose qui est le fruit de ce qu'on a vu de notre vie. On verra un peu plus loin. Donc, de même que Dieu avait voulu nous donner le fruit de l'arbre de vie en Genèse, mais attendait que nous passions par l'épreuve de la patience devant le fruit de l'arbre de la connaissance de bien et du mal, puisque c'est ça qu'il a dit de pas manger, et finalement que Adam et Ève ont mangé. De même, il attend que nous soyons complètement réconciliés avec lui avant de nous introduire dans son bonheur. Donc là, c'est le jugement dernier, au sens différent du jugement particulier, et qui va porter sur l'ensemble de l'expérience de l'humanité. Donc nos expériences individuelles, mais aussi nos expériences collectives de société. Et donc elle va imprégner, elle va juger, elle va toutes les réalités qu'on a connues, y compris l'histoire, l'art, ce qu'on veut. Voilà, et quelque chose de tout ce qui a été bâti, construit depuis le début, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans notre société, qui est consonant avec la vérité et qui a été bâti sur l'amour de Dieu et du prochain, il passera dans la vie éternelle. Et le reste tombera en poussière, puisque finalement, ça n'a pas de vie, en fait. Voilà. Donc il y a cette idée de passage, et donc il y aura on parle d'ailleurs de la Jérusalem, on verra un peu plus loin, mais la Jérusalem céleste, donc on parle d'un ensemble de choses, quoi, pas juste d'une collection d'individus. Voilà, et ce jugement montre a posteriori, ou a contrario, que l'importance de ce qu'on a vécu sur Terre n'est pas sans conséquence. Donc quand on dit travailler pour les biens du ciel, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ne passez pas du temps à travailler sur des biens qui de toute façon tombent en poussière. Mais par contre, tout ce qu'on investit sur l'amour, le service, le don de soi, la vérité, la prière, tout ça, ça passera. Parce que c'est quelque chose qui nous construit et qui nous rend préparés, enfin qui a du sens, pardon, dans cette vie éternelle. Pardon. Voilà, et il est deux fois, donc ça, je pense que c'est important aussi de se dire que c'est pas Dieu ne nous sauve pas qu'on ait envie ou pas envie, quoi, quelque part. Il ne nous aura pas à l'usure. C'est important de penser qu'il respecte notre liberté jusqu'au bout. Et donc, jusqu'au bout, il peut y avoir des gens qui ne veulent pas vivre avec Dieu. Et on sait que Satan est déjà de ce camp-là. Mais potentiellement, il y en a d'autres. Et Jésus a parlé de l'enfer au sens de cette séparation. Voilà. Et c'est vraiment c'est moins l'accumulation de fautes, parce que ça, on a la miséricorde de Dieu. Donc, c'est pas exactement ça le sujet. Mais c'est ce refus de l'amour, ce refus d'être... d'être avec Dieu, qui fait que c'est ce que Jésus appelle le péché contre l'esprit. Voilà, et donc tout le jugement va porter sur la foi opérant par la charité. Mais voilà, et il faut tenir qu'il y a l'enfer, même si on espère qu'il sera plutôt désert, mais voilà, ça fait partie de la... Dieu nous prend au sérieux, et donc il nous prend au sérieux jusque-là. Alors, la résurrection, parce que quand même, c'est une grosse partie de ce jugement... final, c'est la résurrection, et quand je dis la résurrection, c'est aussi la résurrection de la chair. Donc Jésus l'a enseigné, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, et ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Mais tout le monde est ressuscité. Donc on est vraiment appelé à ressusciter avec notre corps. C'est aussi ce qu'il dit quand il annonce qu'il promet de boire le mélange nouveau de la coupe avec ses disciples dans le royaume. Voilà, donc il y a quelque chose de la résurrection des corps. Il y a beaucoup de signes qui montrent qu'il y a une dimension corporelle et une résurrection dans l'au-delà. Et saint Paul nous dit, avec lui, il nous a ressuscité, il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Donc notre corps est lui aussi appelé au salut à la suite du Christ ressuscité. Saint Irénée nous dit, nous pouvons affirmer énergiquement le salut de notre chair, donc chair au sens vraiment notre matériau là, physique, car si la chair ne devait pas être sauvée, le Verbe de Dieu ne se serait pas fait chair, et surtout on n'aurait pas vu ressusciter avec sa chair. Notre corps n'est pas différent de notre être. Donc, en fait, quand on dit « je vois », ben, en fait, c'est nos yeux qui voient, mais ce n'est pas différent de « je », mon sujet Sylvie, qui est en train de regarder. Voilà, donc on ne distingue pas. Quand on a mal quelque part, c'est notre être qui a mal. Ce n'est pas juste mon pied ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc on ne se différencie pas. On a un corps propre, comme dit Merleau-Ponty. Donc, notre corps, c'est notre manière d'être au monde, c'est le rayonnement de l'âme. Donc, il y a quelque chose qui est... notre être, il est avec le corps, et c'est ça qui fait notre réalité. Et d'ailleurs, Jésus l'a assumé, puisqu'il s'est fait corps, et qu'il est ressuscité avec un corps. Saint Grégoire de Nyssa consacre un traité entier à la résurrection de l'homme. Alors, il était médecin, donc il revisite la pensée grecque pour montrer la possibilité paradoxale d'une chair glorifiée. Donc, tout l'enjeu, c'est de dire à la fois, c'est exactement le même corps. C'est ce que dit saint Thomas en disant identité des corps, les ressuscités, leur pleine intégrité. Donc il dit cheveux, ongles, voilà, c'est tout notre corps. Donc lui, il est dans le détail. C'est rigolo pour ça. Et en même temps, il y a quelque chose de, voilà, de transformé, de différent quand même. Voilà. Donc saint Thomas, il nous dit si l'âme ne reprenait pas le même corps, on ne dirait pas résurrection, mais assomption d'un nouveau corps. Donc lui, il dit si on est ressuscité, c'est notre propre corps qui est ressuscité. C'est pas, tiens, il y a une loterie, et puis toi, t'as le corps AB, AB, ou voilà. C'est pas ça le sujet, c'est mon corps que je retrouve, puisque c'est mon être, en fait. Voilà, alors il explique par une irradiation de l'âme déjà divinisée sur le corps. On va voir un tout petit peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire sur les âmes séparées, entre le temps du jugement individuel après ma mort, et puis ce temps de résurrection finale. Voilà, il y a mon âme qui est déjà... ressuscité, on va dire, qui est déjà dans une forme de béatitude, et puis mon corps qui est en attente, voilà. Et donc il y a cette, tout d'un coup, ça s'étire un peu dans le temps, mais il y a une irradiation de l'âme qui est déjà divinisée, qui impacte ou qui énerve le corps, voilà. Alors on n'a évidemment pas d'idée sur le corps du ressuscité, de comment on ressuscitera, hein, donc voilà. Origène avait avancé qu'on serait sûrement des bulles parce que les sphères étaient ce qui était le cercle était ce qui était la forme parfaite, donc on allait ressusciter comme des petits culbutos. Bon, ça me paraît pas très crédible, mais voilà. Bon, vous pouvez penser ce que vous voulez de toute façon. Ce qu'on peut voir, c'est que ce sera un corps véritable, solide, palpable. Donc on voit que le Christ, quand il apparaît à ses apôtres, il dit touchez-moi. Voilà, donc il y a de la matière. Voilà, donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que il y aura quelque chose qui est soulevé par la vie de Dieu. Donc, il y a une sorte de transfiguration de notre corps. Voilà, c'est aussi ce que Jésus a vécu dans la transfiguration, qu'il a manifesté avant la résurrection. Même dans sa résurrection, ils ont du mal à le reconnaître. Voilà, donc il y a quelque chose de ça. Il y a un renouvellement complet de tous les instants. Alors, c'est cette notion de temps, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais il y a quelque chose qui n'est pas dans le... Ce qu'on expérimente, nous, c'est un corps qui vieillit. Voilà, mais normalement, il va vers la mort. Dans l'éternité, c'est pas ce sujet-là. Et pourtant, c'est pas un corps statique avec plus rien qui bouge. Voilà, donc il y a quelque chose d'un renouvellement. Et puis, il est incorruptible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas de nouveau pécher. Donc on n'est pas dans la même configuration, ne peut pas de nouveau mourir. On n'est pas retour au paradis, donc on ne redevient pas comme Adam. C'est un autre état. Voilà, on n'est pas du tout sur ça, puisque nous ne pourrons plus mourir. Voilà. Et puis après, il y aura probablement tous nos traits distinctifs. Par contre, tout ce qui sera infligé par le péché sera gommé. Probablement que les expériences fortes que l'homme a faites et qui l'ont rapproché de Dieu resteront. On peut penser que les défauts seront supprimés, en tout cas on le souhaite, que les manques seront comblés. S'il me manque une jambe, je préférerais en avoir une. Voilà. Mais on voit que les marques, c'est intéressant parce que le Christ ressuscité, il a gardé les marques des clous. Parce que c'était quelque chose de l'amour de Jésus pour nous, et donc voilà, donc probablement que les marques de ce type là voilà, donc voilà, c'est des éléments. Une fois qu'on a fait ça, faites ce que vous voulez avec. Il n'y a rien qui est de dogme, hein, donc soyons clairs, à part qu'on sera corporel au sens réel du terme. Voilà, c'est juste ça. Après, on peut penser à Jésus qui a le don de, voilà, d'apparaître à plusieurs endroits, donc une forme d'agilité, d'impassibilité au sens où il ne souffrira plus. Alors ça, c'est plutôt en référence avec l'Apocalypse. Il n'y aura plus de deuil, plus de larmes. On verra le texte plus tard. Mais c'est, voilà, il y a quelque chose de ça. Donc l'impassibilité, là, c'est pas qu'on n'expérimentera plus les sens. Enfin, les sens restent, puisque ça fait partie de notre corps. Donc il y aura sûrement quelque chose de ça. Mais en tout cas, il n'y aura plus la souffrance. Voilà, nous serons nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Christ Jésus, Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Voilà, donc on aura un corps glorieux. Alors, les âmes séparées avant le jugement dernier, donc ça, c'est un sujet. Parce qu'on peut se dire, bah, du coup, comment est-ce qu'on peut être bien heureux déjà et déjà en Dieu alors qu'on n'a pas notre corps? Alors, donc, c'est pas tellement pertinent par rapport à ce qu'on est. Alors, on a des indices avec la parabole de Lazare et du mauvais riche, la phrase de Jésus au bon Larousse sur la croix, ce soir même, tu seras au paradis avec moi. Voilà, donc ils nous font pressentir qu'il y a quelque chose de ça. Et puis l'Église, elle a tâtonné. Et puis finalement, elle a affirmé, donc c'est Benoît XII en 1336, donc c'est tard, que bah si, il y avait les bienheureux ont la vision directe de Dieu dès leur mort, avant leur corps. Voilà. Il y a une forme de plénitude une fois qu'il y a le corps. Bon, ça reste pas très abouti tout ça. Mais en même temps, ça nous donne une idée du temps, mais c'est vu de notre point de vue. Qu'est-ce que sera ce temps? Et voilà, donc c'est pas le même temps, c'est pas la même façon d'être. Donc voilà, en tout cas, il y a un espace entre le jugement individuel et le jugement final. Quelque chose que Jésus a expérimenté le samedi saint. Alors, il n'y a pas eu la corruption du corps, mais il a eu quand même ce temps où son âme était manifestement allée aux enfers chercher Adam, Ève et les autres, et son corps était dans le tombeau. Voilà. Donc il a vécu cette séparation qu'on est appelé à vivre. Ça ne l'empêchait pas d'être pleinement Jésus et pleinement avec son Père et pleinement heureux. Donc voilà, quelque chose de ça. Par contre, ce qui est différent, et on voit que l'Assomption de Marie ou le corps des saints qui sont restés intacts, quelque part, ils disent quelque chose de ça. C'est qu'ils sont tellement proches du Seigneur qu'ils restent dans cette dimension où il n'y a pas de corruption. Donc ils sont vraiment comme Jésus, le samedi saint. Pas de corruption du corps. Bon, l'essentiel de la plupart d'entre nous, notre corps va connaître une corruption complète. Donc, il n'y aura plus notre corps, il n'y aura plus rien. Donc, comment on va retrouver notre corps à la fin? Voilà, c'est des questions qui se posent, mais dont je n'ai absolument pas la réponse. Et on peut imaginer que Dieu, que notre corps, il reste, même si ça se dilue dans plein de trucs, et qu'il y a quelque chose de notre être, voilà, qui est reconnaissable. Et donc que Dieu arrivera à faire un peu avec le puzzle, et à refaire tout, à compléter ce qui manque, et à nous renouveler. Après tout, la puissance de Dieu fait ça. Mais je pense que ce qui est intéressant, on le voit dans les ossements desséchés d'Ézéchiel, même s'il paraît que c'est plutôt une vision communautaire des choses, mais je trouve que voilà, ça dit bien, il y a des ossements et puis on remet de la chair, et à la fois c'est des personnes qui se lèvent, c'est pas des corps au sens strict, c'est des personnes. Voilà. Donc on peut penser que Dieu va trouver la manière de faire ça, même si à un moment donné, on n'est plus vraiment, notre corps n'est plus dispo. Voilà. Ça reste des sujets que beaucoup de gens travaillent. En même temps, on ne peut pas tellement épiloguer sur le sujet puisqu'on n'a pas d'informations. Parce que je pense que ce qui est important, c'est de se dire que... et ça, par rapport à la tonalité actuelle de réincarnation ou de négation du corps comme étant important, c'est important de dire que c'est vraiment notre être. Et c'est parce qu'il vit la corruption à un instant T qu'il a participation à la résurrection et que c'est notre corps qui ressuscitera. Voilà. Et dans le cosmos, on a un peu la même idée à l'échelle du cosmos. Dans l'Apocalypse, donc là, c'est un texte de Irénée, je me trompe pas, oui. Dans l'Apocalypse, Jean dit ensuite, « Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'était plus. » Intéressant, la mer, elle a disparu. La mer, c'est le symbole de la mort. Donc, c'est probablement pour ça qu'il le mentionne, et qu'après, il ne le mentionne plus dans la nouvelle cité. Et je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, descendre du ciel d'auprès de Dieu. Donc il y a quelque chose de don de Dieu qui vient. Voilà, apprêtée comme une fiancée parée pour son époux. Et j'entendis une grande voix sortant du trône qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses s'en sont allées. » Isaïe l'avait déjà dit « Ce sera le ciel nouveau et la terre nouvelle. » On ne se souviendra plus des premières choses, elles ne reviendront plus à l'esprit, mais on trouvera joie et allégresse dans cette terre nouvelle. C'est ce que dit l'apôtre, car elle passe la figure de ce monde, et le Seigneur dit pareillement, le ciel et la terre passeront. Quand donc ces choses auront passé, nous dit Jean, le disciple du Seigneur, sur la terre nouvelle descendra la Jérusalem d'en haut, telle une fiancée parée pour son époux, et c'est elle qui sera le tabernacle de Dieu, en lequel Dieu habitera avec les hommes. C'est de cette Jérusalem-là que sera l'image, la Jérusalem de la première terre, où les justes s'exerceront à l'incorruptibilité et se prépareront au salut, comme c'est aussi de ce tabernacle-là que Moïse a reçu le modèle sur la montagne. Donc à la fois on ne se souvient plus du passé, et en même temps il y a une forme de continuité et d'accomplissement. Donc c'est sous ce thème sur l'accomplissement. Et donc cette Jérusalem nouvelle qui vient d'en haut, elle ne nie pas la Jérusalem, notre terre. Elle en fait quelque chose de nouveau, mais voilà, elle est parée comme une fiancée. Donc elle est renouvelée dans une nouvelle relation avec Dieu, puisque l'essentiel de la glorification, c'est cette nouvelle relation à Dieu, de passer de la séparation à l'accomplissement ou à voir Dieu. Et donc, nous passons à la divinisation. Je vous termine une phrase de Saint Jean sur le fait qu'il nous emmènera avec lui, auprès de lui, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Il nous prépare une place. Alors, le premier sujet, c'est retrouver la ressemblance, la configuration au Christ. Donc, Saint Athanase, pour répliquer Arius, a forgé la formule « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu ». Donc on est bien clair qu'il ne parle pas de la nature humaine qui deviendrait nature divine, mais sur le fait qu'on est, on retrouve notre ressemblance et qu'on peut être, on a été fait à l'image de Dieu, mais qu'on peut retrouver cette ressemblance. Donc en fait, on est fait à l'image de Dieu, qui est l'image de l'image consubstantielle, qui est le Verbe. Le péché l'a détourné, la contemplation du Père est soumise à la loi et à la loi de la corruption. Donc on a perdu cette contemplation du Père et cette image finalement en acte. Le Verbe alors se fait chair, d'une part pour que les hommes devenus incapables de voir autre chose que du sensible puissent de nouveau le voir et par lui voir le Père. Donc là c'est la dimension aussi où on va introduire l'idée de voir Dieu et donc voir le non visible quelque part. Et donc Jésus nous permet de voir le non visible. Voilà. Et d'autre part, pour communiquer à la chair corruptible l'incorruption de celui qui est la vie, l'homme peut imiter de Dieu parce que le Verbe fait chair communique à l'homme charnel ce qui lui est propre. Voilà. Et donc il y a cette par le Christ, parce qu'il a assumé notre humanité, qu'il a offert sa vie et qu'il est resté obéissant, et ben il nous a permis d'abord de voir Dieu, comme il y a Philippe, hein, qui me voit le Père, et de communiquer, il nous communique cette capacité de finalement de voir Dieu, et donc de l'imiter, connaître dans tous les sens du terme. Combien tu aimeras celui qui t'a ainsi aimé le premier, en l'aimant tu seras un imitateur de sa bonté, et ne t'étonne pas qu'un homme puisse devenir imitateur de Dieu, il le peut, Dieu le voulant. Ça c'est Dionysiète. Saint Jean-Eudes, il parle de notre cœur qui devient unique avec celui de Jésus pour agir selon la volonté du Père. Donc il parle de l'unicité de cœur, qui est une bonne manière de dire comment est-ce que notre être est complètement rendu conforme au Christ. Et Saint Irénée dit « La chair possédée en héritage par l'Esprit oublie ce qu'elle est pour acquérir la qualité de l'Esprit et devenir conforme au Verbe de Dieu. » Là, par l'Esprit Saint. Alors en fait, cette configuration au Christ, c'est en fait la filiation divine. Donc c'est devenir vraiment enfant de Dieu, fils dans le Fils, ou fils avec le, oui, fille avec le Fils. Voilà. Maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage. Donc l'héritage, c'est pour les fils, en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que par eux, vous deveniez participants de la nature divine et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Alors, de nouveau un texte de Saint Irénée. Alors, on va lire en entier parce qu'il est... Il explique bien les choses. En tout cela et à travers tout cela, paraît un seul et même Dieu Père. C'est lui qui a modelé l'homme et promis au Père l'héritage de la terre. Alors, au Père, là, c'est le Père avec un petit P. C'est à nos pères, voilà. C'est lui qui le donnera lors de la résurrection des justes et réalisera ses promesses dans le royaume de son Fils. C'est lui enfin qui accordera selon sa paternité ses biens que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et qui ne se sont pas montrés au cœur de l'homme. Il n'y a en effet qu'un seul Fils qui accomplit la volonté du Père et qu'un seul genre humain en lequel s'accomplissent les mystères de Dieu. Ces mystères, les anges aspirent à les contempler, mais ils ne peuvent scruter la sagesse de Dieu, par l'action de laquelle l'ouvrage, par lui modelé, est rendu conforme et concorporel au Fils. car Dieu a voulu que sa progéniture, le Verbe premier-né, descende vers la créature, c'est-à-dire vers l'ouvrage modelé, et soit saisie par elle, et que la créature à son tour saisisse le Verbe et monte vers lui, dépassant ainsi les anges et devenant à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc c'est tout le mouvement de... Dernier, pour ça, il est très bon. C'est tout le mouvement descendant du dessein du Père qui a modelé l'homme, qui envoie son Fils pour restaurer tout ça. Et quelque part, le Fils, en assumant nous renvoie. Et l'ascension qu'on va vivre bientôt, c'est ça, c'est le Christ qui nous emmène avec lui dans la divinité, en Dieu. Voilà. Et donc, c'est par lui qu'on trouve l'image et la ressemblance de Dieu. Par le Fils. L'homme est un être en devenir sur lequel l'art de Dieu n'a pas fini de s'exercer. Le mélange de corps et d'âme doit s'ouvrir à l'Esprit Saint pour que l'homme devienne spirituel, accompli, capable de vivre selon la plénitude de la liberté, capable de vivre devant Dieu non comme un esclave mais comme un fils, à l'exemple du Verbe de Dieu fait chair. Par l'incarnation et la rédemption, la nature humaine corps et âme se trouve ainsi intimement unie au Verbe divin, cela afin que nous aussi, en lui et par lui, nous soyons fils de Dieu par nature et par grâce. Par nature, en lui et en lui seul, par participation et par grâce, nous-mêmes, par lui, dans l'esprit. Donc on ne va pas récupérer la nature divine du Fils, mais par contre, par participation et par grâce, il nous entraîne dans sa filiation. Désolée. Trop. Ainsi, le Verbe par qui tout a été créé constitue l'humanité dans l'unité. La divinisation ne consiste pas en une fusion de l'humanité dans la nature divine, mais dans le partage par grâce de la position du Fils par nature face au Père. Le chemin de la divinisation sera pour les hommes d'entrer dans l'attitude profonde du Fils incarné face au Père, l'obéissance. Et là, on rejoint l'agir moral et le fait que les vertus... Et voilà. Et c'est dans cette obéissance que nous pouvons préparer notre ciel. On ne gagne pas son ciel, mais on peut le préparer à le recevoir. Puis on vive déjà. Est-ce que je vous lis ça? Peut-être pas. On va passer directement à la suite. La béatitude. Voir Dieu et vivre de Dieu. Alors, on a peu de présentations de la béatitude finale, sachant qu'évidemment, vu notre manque, on n'a pas assez le désir de Dieu et on n'a pas assez le désir à l'image de ce que Dieu veut pour nous. Donc forcément, tout notre imaginaire, il va être un peu limité. Voilà. Et donc, il ne faut pas s'imaginer la béatitude finale comme une prolongation, une intensification de nos joies ici-bas. Elles disent quelque chose. Il y a des moments où on a vraiment des joies profondes. Et ça dit quelque chose de cette béatitude. Mais ce n'est pas le prolongement de ça qui va nous faire la béatitude du ciel. Donc le mieux, le plus explicite, c'est ce que saint Paul nous dit. Nous serons toujours avec le Seigneur, et c'est probablement ça qui est le plus juste de la béatitude. Et nous pouvons penser que le Seigneur, il sait comment nous rendre heureux, et donc ce sera un moment bien. Voilà, très bien. Le bonheur de l'homme est de voir Dieu, malgré ses limites, de le connaître et l'aimer comme nous en sommes connus aimés, et d'y puiser la joie infinie pour laquelle elle a été faite, celle d'entrer dans la vie des personnes divines, comme un fils très cher du Père, uni au Christ par les liens d'un amour à la fois fraternel et conjugal, et animé de l'Esprit qui est la vie même des deux autres. L'union la plus intime se réalise malgré la distance toujours maintenue de la créature à son Créateur. C'est un rapport de réciprocité dans l'unité dont le modèle parfait se trouve dans la circumcession des trois personnes de la Trinité. En fait, on peut se dire que au ciel, le Père, il se complaît, et c'est vraiment ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit à la transfiguration, au baptême, je ne sais jamais lequel des deux, je me complais, mon fils en qui je me complais. L'unique activité de Dieu, du Père, c'est d'aimer son Fils. L'unique activité du Fils dans l'éternité, c'est d'aimer son Père et l'Esprit Saint. Et donc, du coup, quelque part, c'est ça la vie éternelle. C'est de ne vivre que d'amour. Voilà. Et donc, du coup, il y a quelque chose de ça qui nous dépasse et qui nous paraît pas plein, mais parce que nous n'expérimentons pas cet amour qui est de tous les instants et qui remplit une vie, en fait. Voilà. Mais on peut penser que c'est exactement vivre de la vie de Dieu qui n'est que le Père aime le Fils aime le Père. Et voilà. Et il n'y a pas d'autres activités, en fait. Tout le reste n'est que débordement de cet amour, en fait, de la création. Jésus sera toujours nôtre avec son humanité, qu'il ne quittera pas et qu'il nous sera commune. Moi, j'aime toujours l'idée que, avec l'ascension, il y a un corps en Dieu, Jésus, il est monté avec son corps. Et donc, on est déjà... la nature humaine, elle est là-haut, déjà. Elle est au ciel. Alors, il y a Marie aussi. Mais voilà. Et donc, il y a... et ce qu'on verra de, on verra Dieu sur le visage humain du Christ, en fait. Et je trouve que c'est très beau, cette alliance. Parce que c'est dans le... Ce sera, c'est toujours... Jésus, il aura toujours un visage humain aussi, pour nous. Et c'est en même temps le visage de Dieu. Voilà. Les autres hommes, devenus aussi transparents à cet amour, nous renverront à l'infini, image vivante de Dieu. Un autre texte que j'avais lu une fois, c'était sur un... Comment imaginer l'amour, comme si on était sur des rayons, et puis il y a Dieu au centre, et plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche des autres rayons où il y a nos frères, en fait. Et donc, l'amour de Dieu et l'amour des frères, c'est le même... c'est la même intensité, enfin, c'est le même mouvement, en fait, quelque part. Voilà. Même si c'est pas un grand tout fusionnel, hein, c'est, chacun reste bien identifié. Donc d'ailleurs, ce n'est pas un bonheur désincarné. Donc nous sommes corps, cœur, intelligence, âme, esprit, tout ce que vous voulez. Puisque c'est le corps qui nous met en contact avec les autres bienheureux, avec le cosmos transfiguré. Quand on dit voir le visage du Christ, ben, c'est concrètement voir avec des yeux. C'est pas voir juste en pensée. Hein. Donc voilà, donc, il y a quelque chose de très... Nos sens sont concernés par la béatitude. Donc le corps dégagé de ses pesanteurs, nos sens dégagés de la souffrance sont ainsi totalement au service de l'adoration et de la charité. Voilà, alors il n'y a plus de naissance, et c'est un peu la thématique de Jésus quand il dit au ciel on ne prend ni femme ni mari, parce qu'il y a cette idée d'humanité, ce que je disais tout à l'heure sur l'humanité un peu, voilà, qui atteint sa plénitude, qui atteint son visage final, et donc il n'y a pas de procréation au ciel. Sinon ce serait un peu bizarre par rapport à le fait qu'on n'a pas non plus la mort, et donc comme si la vie continuait comme avant. Donc c'est un autre temps où il n'y a pas de procréation. Voilà. Donc c'est forcément une vie un peu différente. Il n'y a pas de mort non plus et pas de naissance. Voilà, du coup. Par contre, les richesses des relations restent, et on peut évidemment penser que des maris et des femmes sur Terre ont un lien spécifique là-haut. Et tout l'amour de Dieu et tout le dessein de Dieu et tout ce qu'on voit dans la Bible montre que justement il y a de la différenciation. Enfin voilà, Dieu nous aime chacun individuellement, chacun différemment en fait, et chacun pleinement aussi. Voilà. Et donc toutes les relations, nous aussi, elles sont différentes. On n'aime pas de la même façon. Et c'est pas qu'on aime moins ou plus ou je sais pas quoi. C'est juste que c'est différent. C'est pas les mêmes. Voilà. C'est pas la même chose. Et l'autre chose qu'on peut dire sur la béatitude, c'est que c'est pas un bonheur statique, donc on n'est pas immobile, ça y est, on est en contemplation, comme arrêt sur image, hop, on prend la photo et on bouge plus. Donc ce que Grégoire de Nyssa a dit, c'est des commencements en commencement jusqu'à des commencements qui n'auront pas de fin. On n'a pas d'idée du temps, de ce que c'est, mais en tout cas il y a une forme de dynamique, parce que l'amour il est vivant, la vie c'est aussi du mouvement, donc il y a une forme de mouvement. Pas forcément le même temps, pas forcément le même espace que le nôtre, mais en tout cas, il y a de la dynamique. Voilà. Conclusion, je vous ai mis un petit texte du père de Lubac encore, que je vous lis d'ailleurs parce qu'il est bien. De l'ordre de la nature à celui du surnaturel, il y a incommensurabilité. Et le passage de l'état de créature à l'état de fils de Dieu ne peut être obtenu que par le renversement du vieil homme et de la vieille nature, pour que naisse un nouveau ciel et une nouvelle terre. On devrait déjà reconnaître que nul ne peut voir Dieu sans mourir, mais combien plus maintenant, pour être transfiguré. Donc là, il prend la phrase dans l'autre sens. C'est-à-dire, justement, c'est parce qu'il faut qu'on meure pour pouvoir voir Dieu en vrai. Voilà. Mais combien plus maintenant, pour être transfiguré, la nature pécheresse doit d'abord être retournée. C'est cet appel qui se fait entendre d'un bout à l'autre de l'Écriture. C'est lui qui ouvre l'Évangile, lui qui a encore retenti dans le premier discours missionnaire de Pierre à Jérusalem. Il est beaucoup plus qu'un simple appel au repentir et à la pénitence à propos de pensées ou d'actes particuliers. Le retournement lié à l'audition de la bonne nouvelle affecte toutes les dimensions et jusqu'au fond de l'existence. Dans cette nouvelle perspective, on dira donc en résumé que si l'union de la nature et du surnaturel est consommée en principe par le mystère de l'incarnation, l'union de la nature et de la grâce ne peut être consommée que par le mystère de la rédemption. Là, ce qu'il dit, c'est exactement ça, c'est que l'alliance de la nature et du surnaturel, elle est déjà quelque part là depuis notre baptême, puisque ben, voilà, l'Esprit Saint réside en nous et on est temple de l'Esprit Saint. Et donc, quelque part, c'est le même schéma que l'incarnation. On a les deux natures qui sont là. Mais en tout cas, c'est par la rédemption qu'on a cette union de la nature et de la grâce et que donc on peut être divinisé. Voilà. La divinisation est commencée ici-bas. La divinisation fait entrer l'homme dans une relation filiale avec le Père. À partir et sur le modèle de la relation du Christ à son Père, la divinisation renouvelle la liberté et la nature humaine et fait entrer dans une union de charité avec Dieu en partageant en tout son dessein. La divinisation n'est pas purement réservée pour la fin, l'au-delà. Elle est donnée dès maintenant et c'est elle et elle seule qui rend compte de la nouveauté de vie des chrétiens. Et donc, quand on dit en ce temps pascal, vivez comme des ressuscités, on pourrait dire vivons comme des divinisés.